carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Daniel Mesguich, comédien, metteur en scène de théâtre et d'opéra, créateur et directeur de troupe, professeur d'art dramatique et depuis 2007, directeur du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Daniel Mesguich, théoricien du théâtre, l'une des 5 ou 10 personnes qui, à l'instar des Jean Villard, Antoine Vitesse, Ariane Mouchkine, Peter Brook et quelques autres, ont profondément marqué l'évolution depuis la Seconde Guerre mondiale de la conception que l'on s'est faite en France de cet art. Influence qui, d'ailleurs, ne s'est pas limitée à notre pays, loin de là. Daniel Mesguich, qui est au cœur d'une double actualité, il va mettre en scène à l'Espace Cardin les 27 et 28 avril un texte écrit pour lui par Hélène Sixous, la fiancée aux yeux bandés, un spectacle monté uniquement avec des élèves du conservatoire dans le cadre des travaux de cette grande institution. Par ailleurs, Daniel Mesguich publie au PUF avec Alain Viala, professeur émérite à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et professeur titulaire de la chaire de lettres françaises à l'université d'Oxford, un que sais-je intitulé sans fioriture, le théâtre. Daniel Mesguich, bonjour.
Bonjour, merci de cette présentation.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Hélène Sixous écrit un texte pour vous. Déjà en 1994, elle vous avait offert, si j'ose dire, l'histoire qu'on ne connaîtra jamais, que vous aviez montée, entre autres, au Théâtre de la Ville. Qu'est-ce que vous cherchez le plus à exprimer à partir de ces textes à elle ?
Je cherche à les montrer, tout simplement, à les montrer le mieux possible. Elle-même, Hélène, est une lectrice. C'est un écrivain, évidemment, c'est même, à mon avis, le grand écrivain de notre époque.
Ce que dit Derrida aussi. Hein.
Ce que disait Jacques Derrida aussi, oui, c'est vrai. Eh bien, oui, je le dis à mon tour, plus modestement, mais je le dis aussi. Mais je pense qu'elle est elle-même donc une lectrice, c'est-à-dire elle est elle-même en train sans cesse d'écrire des possibilités de sens, de l'indécidable, au fond. De plonger dans une sorte de nuit lumineuse, de nuit heureuse, mais de nuit quand même, de choses obscures, difficiles à entendre pour nous en tout cas. Et elle revient de ses plongées, avec des diamants, avec des perles, avec des animaux fabuleux, des rêves, des cauchemars, de l'amour en tout cas, ça certainement. Et moi je me contente, quand je travaille de ces textes, je les lis beaucoup, mais quand je les travaille au théâtre, eh bien je me contente de montrer le plus possible. Mais c'est très difficile oralement, c'est très difficile en direct, c'est plus facile en écriture et en différé donc. Je me contente de montrer, comment dire, que l'indécidable est la règle du monde, que chaque fois qu'on tranche, que chaque fois qu'on dit c'est ça, on se trompe.
Alors vous dites d'ailleurs merveilleusement à son sujet, à propos de ces textes, c'est un pont lancé vers la nuit, le secret, le forclos en nous. Alors là, dans cette fille aux yeux bandés, c'est une relecture très personnelle d'Hamlet, très très personnelle.
Je lui avais demandé, mais elle a beaucoup d'humour évidemment, je lui avais demandé quelque chose comme Hamlet. Je lui avais dit, peux-tu m'écrire une grande pièce, une pièce comme elle a déjà fait pour moi, vous le rappeliez tout à l'heure, avec l'histoire On ne connaîtra jamais, que j'avais monté au Théâtre de la Ville. Eh bien, je lui ai dit, est-ce que tu peux recommencer, est-ce que tu peux me refaire une pièce, et je lui dis comme Hamlet. Je ne croyais pas si bien dire, parce qu'elle m'a écrit Hamlet, si j'ose dire. Et un Hamlet qui vient après l'Hamlet de Shakespeare, chronologiquement bien entendu, mais qui d'autre part vient avant. C'est-à-dire c'est un peu comme si Shakespeare était un des personnages, d'ailleurs il est un des personnages de la pièce d'Hélène, l'un des personnages, celui qui aurait à écrire ou qui a eu à écrire, les temps sont brouillés sans arrêt avec Hélène, une pièce intitulée Hamlet. Et il est là pour filmer, en quelque sorte. Donc il est moderne. Il viendrait comme après Hélène Sixous. Non pas un Shakespeare dont elle se serait inspirée. Bien sûr, un Shakespeare dont elle se serait inspirée, bien évidemment. Mais d'autre part, un Shakespeare personnage qui viendrait comme après elle et qui aurait le droit de dire oui, non à certaines scènes qu'elle écrit. Mais il dit oui, non à qui ? Il vient les filmer, donc après coup. Mais il dit non à Hamlet lui-même, à un personnage qui s'appelle Hamelet, qui est sûrement un décalage dans le feuilleté de la réalité, un décalage de Hamlet. Et il dit à cet Hamelet, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, non, ça ne peut pas être ça. Enfin, et au fond, c'est comme une immense enquête pour sonder, là encore, le secret de Hamlet de Shakespeare. Non pas donc une réécriture ou une adaptation, comme on dit, mais quelque chose de plus fort, une plongée dans les rapports qu'il peut y avoir entre Hamlet et Ophélia. Pour ce faire, d'ailleurs, elle a utilisé aussi une autre source. Vous savez que tout le monde utilise des sources. Il n'y a que des sources, au fond. Shakespeare lui-même a travaillé à partir de Saxo Grammaticus. Saxo Grammaticus lui-même a travaillé à partir de tel ou tel, etc. De la même manière que Hélène Cixous a travaillé à partir des Nibelungen, mais les Nibelungen à partir de Snorri Sturluson, qui est un peu l'homologue du Saxo Grammaticus pour Hamlet, eh bien, Shakespeare devient la source pour Hélène, bien sûr, mais elle a eu une autre source, qui était Kierkegaard, le journal d'un séducteur. Et au fond, Ophélia est une sorte de Regina. C'est au fond l'héroïne, si j'ose dire, du séducteur dans le journal d'un séducteur de Kierkegaard. C'est-à-dire que les rapports entre Hamlet et Ophélia s'expliquent sans cesse et sont tordus sans cesse. Au fond, c'est une histoire d'amour qu'elle a écrite, une histoire d'amour entre Hamlet et Regina, sauf que ce qui se passe entre eux n'épouse pas les rapports qu'il peut y avoir entre Hamlet et Ophélia, mais d'autres rapports, comme si en prenant un élément, puis un autre, microscopique, des possibilités qu'il y a entre Hamlet et Ophélia, on ouvrait des mondes. Et on s'aperçoit que tout le machisme, toute la folie masculine, toute la névrose obsessionnelle, toute la hantise sont là, à l'œuvre dans l'amour. Comme si il ne pouvait pas y avoir d'amour heureux, impossible, toujours un père ou une mère, en l'occurrence un père, s'interpose. Un père qui d'autre part est une baudruche, qui d'autre part n'existe pas, qui a été sublimé, qui a été fantasmé.
Et là, il y a deux mères en plus qui sont étonnantes. Hein,
dans... Il y a deux mères magnifiques, oui, qui sont très inspirées de la véritable maman d'Hélène, Ève, qui est une merveille de femme. Et d'autre part, il y a quelque chose qui tournoie sans arrêt et qui n'appartient ni à Hamlet, ni à Ophélia, ni à Shakespeare, ni même peut-être à Hélène Cixous, et qui est, je ne sais pas comment dire, le secret du monde, enfin en tout cas quelque chose de bien plus fort que ça, ou qui dépasserait les personnages, qui dépasserait les rapports psychologiques ou structurels qu'il peut y avoir entre des personnages au théâtre sur une scène, et qui ouvre sur de l'immense. Et tout ça de manière drôle en plus, parce que là j'en parle comme si c'était ou un gourou ou quelqu'un de très intellectuel, etc. Ce n'est ni l'un ni l'autre, Hélène Cixous. C'est quelqu'un qui rit.
Qui est très belle en plus.
Et très qui belle. Paraît très belle, je vous l'accorde.
Alors, on sait très peu de choses sur votre enfance. On sait que vous êtes arrivé en France au moment de l'indépendance de l'Algérie, en 1962, vous aviez 10 ans. Qu'est-ce qui vous reste de plus fort des 10 premières années passées en Algérie ?
Oh mon Dieu, cette question est très difficile. Parce que tout ce que j'ai de fort en moi, si j'ai quelque chose de fort en moi, vient de ces 10 ans. Vous savez, ce sont les 10 ans les plus constitutifs, enfin...
Mais on sait très peu de choses sur vous de cette époque-là.
Oui. Disons que c'est mon secret. non, je peux en parler, bien sûr. D'abord, j'étais un enfant heureux, pour commencer. Heureux avec sa petite sœur, avec son papa et sa maman. Mais ce n'est plus très à la mode de dire ça. Il faut toujours montrer qu'on a eu des problèmes dans la vie, enfin. Eh bien, moi, j'ai été très heureux. Mais réellement, profondément très heureux. De l'amour circulait sans arrêt, comme ça, et de manière belle, de manière tendre, de manière sereine, sans difficulté, sans, comment dire, sans que pour aimer telle chose, il faille détester telle autre. Enfin, vous voyez, les choses étaient simples. Mmh. Quoi, voilà. Et c'était un moment de bonheur, une sorte de paradis. Évidemment perdu, à tout point de vue. Mais je savais qu'il y avait la guerre aussi. Et même enfant, je la voyais. Je voyais la guerre. Je voyais les bombes exploser, éventrer les maisons ou les magasins. Je voyais les morts dans la rue, recouverts d'une couverture avec du sang qui coulait dans les rigoles. Je voyais... Je savais aussi que le monde n'était pas que beau. Hein. Ce n'était pas simplement idyllique et naïf. Pourtant, le fond de tout ça était un amour immense. Et je pense.
Vous parlez un peu comme Camus quand il parlait de l'Algérie.
Mais je peux le comprendre, ou comme Derrida, ou comme Hélène Cixous, justement, ou comme même quelques autres. Oui, oui, je pense que c'était un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel de ma vie.
Alors, vous arrivez à Marseille, vous êtes au lycée à Marseille, vous rentrez au conservatoire de Marseille, et puis ensuite, vous montez à Paris, comme on dit. Vous faites 2 ans de philosophie, et puis vous rentrez au conservatoire, au Grand Conservatoire de Paris. Alors, qu'est-ce qui vous a fait, disons, choisir le conservatoire au lieu de la philo et du cursus universitaire ?
J'avais déjà choisi le théâtre. Hein. Je faisais de la philo par dépit, si j'ose dire. Non pas par dépit, parce que j'adore la philosophie.
Oui, parce que ça vous a profondément marqué.
Bien sûr.
Le structuralisme, tout ça, c'est au cœur de votre...
Et surtout la déconstruction, enfin, surtout Derrida dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Mais la psychanalyse m'a beaucoup marqué aussi. Enfin, en tout cas, la pensée, l'acte de lire, de décrypter, de penser, de rêver, de réfléchir, évidemment. Mais j'avais déjà choisi. Dès l'âge de 15 ans, j'étais entré au Conservatoire de Marseille. Et pour moi, j'étais monté à Paris pour faire du théâtre.
Pour ça, oui.
Pour le théâtre. Bien sûr, mes parents souhaitaient que je fasse des études, entre guillemets, sérieuse, ce qui ne veut pas dire qu'ils m'ont empêché ni ont dénigré, m'ont empêché de faire du théâtre ou ont dénigré cet art, pas du tout. Au contraire, ils étaient très fiers que je fasse du théâtre. Mon père, quand il est mort, on a retrouvé sous l'oreiller de son lit d'hôpital une critique du château de Kafka que j'avais.
Oui, c'était à 20 ans, vous avez monté Kafka.
Au conservatoire, absolument. Non, le théâtre était aimé. Maman m'avait offert tous les disques du TNP. J'écoutais en boucle Gérard Philippe, Deschamps et autres Wilson et Villard, bien sûr. Pourtant, j'aimais la philosophie, j'aimais la pensée. Je faisais la politique aussi. J'étais un jeune gauchiste à l'époque. Et Et donc, je me suis tout naturellement inscrit en philo, ayant raté une première fois le concours d'entrée du conservatoire. C'est aussi pour que j'ai fait un peu plus de philo que je n'aurais dû. Mais dès que j'ai réussi le concours d'entrée du conservatoire, immédiatement, j'ai arrêté la philosophie à la faculté. Ce qui ne veut pas dire que j'ai arrêté la philosophie. Tous les matins, je lis de la philosophie.
Oui, ça se sent dans toute votre œuvre. Alors, vous avez eu comme professeur Vitesse, mais qui a été non seulement votre professeur, mais vous employez le mot de gourou tout à l'heure, c'est pas un joli mot, mais il vous a profondément marqué. Il y a une phrase, il y a une formule de lui qui a guidé toute votre carrière, non ? Je suis pour un théâtre élitaire pour tous.
Élitaire pour tous, oui. C'est une formule qu'il a trouvée sur le tard. Hein. Moi, je l'ai connu bien avant.
Ça vous définit bien, non ?
Je pense que oui. Mais ça le définissait aussi. Hein. Rendons à César ce qui est à César.
Parce que dans votre que sais-je, il y a alors une phrase assez extraordinaire, je la rappelle, hein. Car c'est à un public en devenir qu'il faut s'adresser, et non, comme le fait le théâtre commercial, au public tel qu'il est, dans l'état où il est. Le public en devenir, c'est...
Ce sont les possibilités. Il faut s'adresser à de la possibilité.
Oui, c'est ça.
Et il faut croire que l'avenir est riche de beauté. C'est un optimisme, au fond, que le théâtre élitaire pour tous. Il sous-entend que demain sera mieux. J'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, parce que toute la pensée politique qui a donné d'ailleurs les pires choses, hein, parfois le stalinisme et les camps, etc., croyait au lendemain qui chanterait. Pourtant, il y a pire que les lendemains qui chantent, que nous avons connus, c'est les lendemains qui chantent pas. Moi, je vois certains jeunes d'aujourd'hui, comme on dit, et ça me fait beaucoup de mal, penser que demain sera toujours pire qu'aujourd'hui. Donc il faut s'accrocher à aujourd'hui parce que demain sera encore pire.
C'est la première génération depuis le siècle
oui,
des Lumières.
Depuis le romantisme. Oui, peut-être même depuis le siècle des Lumières, vous avez raison. Et ça me fait beaucoup de mal. Moi, je suis encore de ceux qui pensaient que le lendemain chanterait. Et voilà, et je crois que le théâtre élitaire pour tous est quelque chose, une action, une activité, un comportement qui sous-entend que le public, dans sa masse, est toujours un peu réactionnaire, toujours un peu fatigué, un peu lourd. Mais chaque personne qui compose cette masse est prête à tout. Au fond d'elle, est prête à tout. Et je fais confiance à chacune des solitudes qui composent une multitude.
Alors, donc, première mise en scène à 20 ans, le château, ça c'était en 72. 73, le prince travesti de Marivaux. Et tout de suite, vous dérangez beaucoup de gens. Alors, avec le recul, à votre avis, pourquoi avez-vous dérangé immédiatement beaucoup de gens ?
Vraiment, je ne sais pas. Si je me laissais aller à la facilité, je dirais que c'est parce que j'arrivais naïvement avec des formes nouvelles, dans la mesure où j'étais l'un des premiers lecteurs, parmi les gens de théâtre, bien sûr, pas du tout parmi les universitaires ou les intellectuels. Mais parmi les gens de théâtre, j'étais sans doute l'un des premiers à prendre pour argent comptant, j'emploie l'expression un peu grossièrement, un peu facilement, mais à prendre pour argent comptant ce qu'on a appelé après coup la French Theory, vous savez, enfin Deleuze, Foucault, Lacan, Barthes et autres, Althusser. Tous ces gens-là n'ont aucun rapport entre eux d'ailleurs, mais enfin il se trouve qu'on les a groupés, qu'on les a appelés comme ça. Et je lisais, j'étais un fervent lecteur de tous ces grands penseurs et de ces grands écrivains-là, je continue à l'être d'ailleurs, je pense que la pensée d'aujourd'hui est bien plus faible que cette époque de la pensée française. Et j'essaye d'importer le plus naïvement possible les pensées que je lisais et que je partageais, dans la mesure où je les comprenais, pas toutes, pas toujours, de les importer dans le théâtre. Et évidemment, ça dérangeait, pour au moins deux raisons. La première, c'est que les intellectuels du théâtre étaient des gens qui étaient ou marxistes, ou existentialistes, ou formalistes, mais en tout cas n'étaient pas encore arrivés là.
Il y avait toute l'influence brechtienne déjà.
Voilà, il y avait le brechtisme évidemment qui régnait. Les intellectuels étaient brechtiens, devaient être brechtiens.
Ça.
Et voilà que tout d'un coup quelqu'un non brechtien arrivait, tout aussi intellectuel qu'eux, peut-être plus encore, mais qui transformait ça. Et qui pactisait, mais qui pactisait pas au sens, j'espère, de la mollesse ou du compromis, ou de la compromission, mais qui entendait, qui ne voulait pas être sourd, en tout cas qui ne voulait pas être parallèle, au théâtre dit commercial, au théâtre convenu, conventionnel, pour lequel d'ailleurs j'avais du respect aussi. Je ne méprisais pas du tout, même si j'étais leur ennemi, les gens de la vieille comédie française qui jouaient la main sur le cœur face publique en déclamant. Je trouvais que c'était intéressant, ça aussi. Et qu'il fallait parfois un certain talent pour le faire comme ils le faisaient. Et puis j'ai fait de la télévision aussi. Dans la même période, je jouais Napoléon, ou à peu près, un grand feuilleton populaire.
Ça a marqué.
Et voilà, les gens m'arrêtaient dans la rue, etc. Donc on s'est dit, mais où est-il ? Et ce qui dérangeait, je crois, c'était les déclarations péremptoires que je pouvais faire, très intellectuelles, très engagées, très politiques, en même temps que le fait qu'on me voyait à la télé, en même temps que j'inventais des formes qui n'existaient pas. Donc les pistes étaient brouillées, on ne savait pas par où attraper ce bonhomme.
En plus, vous y disiez quand même des choses, tenez, je vous cite, hein. Lire, c'est toujours se demander non pas ce que ça veut dire, mais ce que ça peut dire. Alors, est-ce que le « peut dire » peut aller au-delà de ce qu'a imaginé l'auteur ?
Bien évidemment.
Parce que vous êtes colleté quand même, vous, Marivaux, Racine, Shakespeare, Claudel, Tchekhov, Musset, et j'en passe, Vous avez choisi les plus grands. Alors, vous avez la liberté d'aller au-delà ?
Bien sûr.
C'est ça, hein ?
Mais bien sûr.
Et c'est pour ça que vous avez dérangé, en fait.
C'est aussi pour ça. Oui, bien sûr. Vous savez, cette phrase n'est pas de moi. Hein. Non pas ce que ça veut dire, mais ce que ça peut dire. Au fond, je résume et je caricature un peu un grand texte de Lévinas, du philosophe Lévinas, Emmanuel, qui expliquait que les possibilités, ça paraît presque banal de le dire comme ça aujourd'hui, mais à l'époque où il l'a écrit, c'était pas si banal que ça, évidemment, que les possibilités de lecture, que ce qui est en germe dans la lettre dépassera toujours tout esprit, toute lecture qu'on en ferait, lecture au sens du coloriage que chacun peut faire d'un texte. La lettre est plus riche que l'esprit, et l'esprit, les esprits, littéralement, sont toujours plus riches que tel ou tel lecteur. Voilà. Et ces lecteurs seraient-ils même l'auteur ? Il devient, une fois qu'il a publié, l'un des lecteurs, ni plus ni moins que l'un des lecteurs de sa lettre. La lettre est toujours plus forte. Voilà. Et les possibilités, les potentialités qu'il y a dans la lettre sont infinies, alors que les intentions d'un auteur sont très finies.
On touche alors à une sorte d'alchimie. Hein. Vous dites dans votre que sais-je, je cite, hein, le théâtre ne tombe pas juste, il est ajustement patient, apprentissage de l'apprentissage. Il n'est pas affaire de consommation, mais de consommation, de combustion lente. C'est de l'alchimie, ça.
De l'alchimie, sans la magie, oui, c'est ça, sans la magie, sans l'ésotérisme livré derrière. Mais oui, en tout cas, c'est de la transformation. C'est certainement de la transformation, de la précipitation, comme on dit en chimie.
Et vous ajoutez, alors un peu plus loin, et si l'art du théâtre était autant celui du voilement que celui du dévoilement ? Et vous ajoutez encore, parfois ce n'est pas sens qu'il faut faire, mais énigme. Autrement dit, la recherche de la simplicité, à tout prix, c'est pas le théâtre, quoi.
Non, vous savez, alors le voilement et le dévoilement, j'en parle depuis très longtemps en réalité. Vous savez,
tout le monde
semble rechercher...
Faire énigme à propos d'un texte.
Tout le monde semble rechercher la vérité. Or la vérité, comme vous le savez, c'est aletheia, hein, c'est le dévoilement. La vérité est-elle là ? Il suffit d'enlever les embûches qu'il y a entre elle et nous la voyons crue, nue, devant nous. Ce n'est pas sûr que ce soit comme ça que ça marche. Et peut-être est-ce le rapport que nous avons au monde et aux choses et aux réalités, aux conceptions que nous avons des réalités, de la réalité ou des réalités, qui est vérité, qui fait vérité. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il y a dans la nuit parfois plus de possibilités que dans le jour. Il y a dans l'inconscient bien plus de possibilités que dans le conscient, etc. etc. Et peut-être que, je ne dis pas ça en pactisant avec je ne sais quelle pensée magique, loin de là, je pense qu'il faut rester rationnel, je pense qu'il faut ouvrir sans arrêt et comprendre le monde le plus possible, le plus rationnellement, le plus consciemment possible. Ça n'empêche pas qu'il faut aller jusqu'à l'impossible de la pensée, et non pas simplement penser tranquillement. Qu'il faut aller jusqu'à l'irreprésentable pour le théâtre, et non pas au représentable, etc., etc. Donc énigme, oui, énigme parce que c'est la question même, ce sont les questions qui nous déportent, qui nous transportent, qui nous déplacent. Et sans déplacement, je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire semblant de penser.
Alors, il n'y a pas longtemps, dans cette émission, Michel Bouquet nous disait que le rôle du comédien, c'était aussi et peut-être surtout d'être le passeur de ce qui n'était pas dit.
Et bien sûr, je pourrais ne pas être toujours d'accord avec Michel Bouquet, même si j'ai un respect infini pour lui, art et pour cette personne, vraiment, que j'aime infiniment. Mais je pourrais ne pas être toujours d'accord avec lui, ça je le sais, parce que j'ai entendu des déclarations dont je me disais qu'elles n'étaient pas du tout celles que j'aurais pu moi-même émettre. Pourtant, je suis d'accord avec cette phrase, absolument. Au fond, ce que nous transmettons, c'est un certain silence, c'est un certain indicible. C'est entre le point final d'une phrase et la majuscule de la phrase suivante dans un texte, il y a un tout petit peu de blanc. Mais ce petit peu de blanc-là, aucun écrivain ne peut l'écrire, aucun imprimeur ne peut l'imprimer, aucun éditeur ne peut l'éditer. Mais un acteur peut le jouer.
Et c'est l'art, quoi.
Voilà.
Alors, dites-moi si je vous ai bien compris dans ce que sais-je, parce que vous nous dites que le théâtre, c'est une perpétuelle remise en jeu. Alors, est-ce que ça n'a pas quelque chose de sacré, dans la mesure où ça aurait un lien, au fond, avec la mort ? Le théâtre tourne autour de la mort. À vous lire, j'ai cette impression-là.
Non, vous avez raison. Mais il est la vie qui tourne autour de la mort. Il n'est pas morbide, si c'est ça qui risque de se faire entendre. Je sais que c'est pas ce que vous avez dit.
En termes d'essentiel, quoi.
Oui, oui. Sans la mort, il n'y a pas de théâtre, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de théâtre sans mort. Regardez, il y a une petite chose d'ailleurs que je signale dans le que sais-je. Si vous prenez la carte du monde, où y a-t-il du théâtre et où n'y en a-t-il pas ? Eh bien, il n'y en a pas dans les pays où on croit, dur comme fer, à la réincarnation. Quand on croit qu'on peut revenir, inutile de faire du théâtre. C'est quand on croit qu'on ne peut pas revenir, intact, tel quel, qu'alors il y a du théâtre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait revenir quand même. Mais quoi alors ? Ben les spectres, les revenants, littéralement. Si on peut revenir, inutile qu'il y ait des fantômes. On reviendra. Si on ne peut pas revenir, alors les fantômes arrivent. Les revenants, à moitié, les revenants impossibles, arrivent. Ce qu'on appelle un revenant, au fond, ce ne serait pas une personne qui reviendrait, comme dans la réincarnation, mais ce serait quelqu'un qui ne peut pas se réincarner et qui pourtant revient. Comme un souvenir, comme un parfum, comme une absence brûlante. Et je crois qu'il ne peut pas y avoir de théâtre sans ce souvenir ou sans cette absence brûlante.
Et alors nous, par rapport à lui, qu'est-ce qu'on est ? Alors nous, public, par rapport à ce revenant, quand on est dans une salle, il y a une communion ? Qu'est-ce qui
oui,
se passe ?
Oui, mais attendez, ce n'est pas des revenants au sens où ils auraient je
oui,
ne
oui,
sais
non,
quel drap blanc.
Pas retour vers le futur. Hein.
Non, voilà, ce n'est pas retour vers le futur. Ce sont des spectres en nous.
Oui, c'est ça.
En nous,
c'est ça, c'est
bien sûr.
Ça. Bien sûr. L'intimité.
Mais vous savez, le théâtre vient de spectare.
Oui.
Le spectre aussi.
Le
théâtre, c'est le spectacle. Et le spectre, c'est spectare. C'est le spectacle, si vous voulez.
J'ai oublié de dire tout à l'heure que vous aviez été le plus jeune professeur. Et vous êtes toujours le plus jeune professeur de l'histoire du conservatoire. Vous avez commencé à enseigner en 31 ans. Vous n'avez jamais cessé d'enseigner. Et vous êtes donc, depuis 2007, le président de cette grande institution. Pourquoi ? Alors que vous faites tellement de choses à côté, avoir choisi d'enseigner, est-ce que c'est pour faire bouger les lignes de force de l'image du théâtre, des codes ? Ou est-ce que c'est la passion ? Ou c'est un côté Pygmalion ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, si ça peut se résumer. Hein.
Au début, je crois que j'ai enseigné par forfanterie, en souriant. Je me disais, après tout, on n'a pas besoin d'être un vieux con, il suffit d'être en activité, d'avoir des choses à dire.
Con,
on peut être un jeune con, exactement. Et puis j'ai été pris par le jeu, littéralement, de l'enseignement. Je dis bien le jeu de l'enseignement, c'est-à-dire que petit à petit je me suis rendu compte, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté d'en être le directeur ensuite, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument qu'il y ait une école, comment dire, dont la matière fut comme un trou noir et agrippa, aspira l'acte même d'enseigner. Voyez-vous, l'enseignement en général est séparé de la matière qu'il enseigne. L'enseignement de la géographie n'est pas de la géographie, c'est de l'enseignement. L'enseignement du théâtre doit être du théâtre. C'est ce que je pense. Non pas donc un enseignement
comme
sauf...
Comme la direction de troupe.
Oui, exactement, comme la direction de troupe.
Ce que disait Muriel Mayette ici...
Elle a raison. C'est du théâtre, c'est jouer un rôle ou des rôles que d'être l'administratrice de la Comédie Française. Eh bien, de la même manière, je crois que le professeur est un metteur en scène ou un acteur, enfin, il est les deux, je crois, de théâtre. Quand il s'agit de théâtre, quand il s'agit d'art, un enseignement qui serait séparé de la matière qu'il enseigne, quand la matière qu'il enseigne, c'est l'art, est un mauvais enseignement de l'art, il me semble. Ou alors un enseignement technique. Moi, je suis l'ennemi, et le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris devient un exemple dans le monde, je le dis avec fierté, parce que c'est une école qui a commencé à clamer que les cours techniques étaient très importants. Qui n'a jamais dit le contraire. Il faut de la technique dans la vie pour n'importe quoi. Pour ce micro, il faut de la technique, ce micro dans lequel nous parlons, etc. Pourtant, la technique n'est que la technique, et que c'était l'art et la pensée qui étaient le principal. Je paraphrase tous les grands philosophes, Heidegger et autres, ou Hannah Arendt. Mais je le dis aussi au conservatoire, c'est-à-dire que la différence entre un cours technique et un cours artistique, c'est que dans le cours technique, le professeur s'adresse au fond aux élèves comme s'ils étaient des enfants et à qui on pose de fausses questions, vous
d'accord.
savez. Et pourquoi elle est bleue, la mère, enfin, voilà, etc. Et le père sait la réponse, mais il fait semblant de poser la question à l'enfant. La technique sous-entend, les cours techniques sous-entendent que le but est accessible, qu'il est visible, qu'on le voit. Il suffit de l'atteindre. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut monter les degrés un par un. Mais on sait ce qu'est le but. C'est de maîtriser telle chose. En art,
c'est une quête partagée.
Exactement, c'est une quête partagée. On ne voit pas le but. Et le professeur est aussi démuni que les élèves. Il a plus d'expérience, il a plus de bouteilles, il a plus d'autorité, sans doute. Mais il est aussi démuni que les élèves devant le but à atteindre. Y a-t-il d'abord un but à atteindre ? Peut-être 12, peut-être 15, peut-être 0, vous voyez ? Et cette avancée dans les joncs et les marécages, je trouve que c'est capital pour une école. C'est même la chose la plus importante, une école d'art. Or, si l'on regarde la carte du monde, là encore, la plupart des écoles sont sur le modèle anglo-saxon, américain. On fait beaucoup de training, beaucoup d'entraînement, beaucoup de choses corporelles le matin, puis l'après-midi, on joue. Et on joue de manière assez convenue, assez conventionnelle. C'est une sorte de naturalisme psychologique qui dirige à distance la moindre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des acteurs extraordinaires et des mises en scène parfois passionnantes. La question n'est pas là. Je ne dis pas que le théâtre français est meilleur que tel ou tel autre théâtre, bien entendu. Pourtant, je pense que le conservatoire est en train d'inventer une autre façon d'enseigner le théâtre.
Alors, parmi vos élèves, on citera Richard Anconina, Sandrine Kiberlin, Vincent Pérez, Philippe Torreton, Guillaume Gallienne et tant d'autres. Question toute bête, pardonnez-moi, mais là, nous allons participer à un événement merveilleux. Là, ces deux jours, le 27 et le 28 avril, cette représentation donc, du texte de Sixous mis en scène par vous avec des élèves du conservatoire. Est-ce que parmi ceux et celles-là, il y en a dont vous dites, tiens, celui-là pourrait devenir, je ne sais pas moi, Gérard Philippe, celle-là pourrait devenir Jeanne Moreau. Est-ce que vous avez une intuition comme ça de ce qu'ils peuvent devenir ou pas ?
Oui, enfin, je vais vous répondre oui et non, évidemment, mais je vais d'abord vous répondre oui. Oui, en ce moment, il y a de jeunes acteurs dont je pense qu'ils sont les futurs très grands acteurs de demain. J'ai la faiblesse de penser, mais ça, c'est pas à moi l'affirmer, évidemment, que c'est le cas dans cette pièce. Il me semble que la jeune fille qui joue Egin et qui s'appelle Steren Gierek est une sorte de Jeanne Moreau à venir.
Et on m'a parlé d'un autre aussi.
Et il me semble que Johan Cuny, qui joue Hamelet, est une sorte de, alors Gérard Philippe ou je ne sais qui, à venir. Mais de la même manière qu'un autre qui s'appelle Julien Campagny est une sorte de, je ne sais qui, grand acteur, enfin bon, à venir. Je le crois vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le deviendront pour autant. C'est-à-dire que le marché est une chose et le talent ou l'art en est une autre. Parfois, le marché a besoin de telle ou telle personne. Il a besoin d'une jeune fille blonde. Et la brune qui est à côté, qui était mille fois plus géniale, ben, ne sera pas une grande actrice reconnue. Alors que l'autre, la blonde, qui était beaucoup moins intéressante, deviendra très célèbre. Elle finira peut-être d'ailleurs par progresser, par devenir une très bonne actrice, elle aussi. Mais c'est le hasard. Il fallait une petite grosse, il fallait une grande maigre. Vous voyez, le marché est dans l'état où il est. C'est comme le public dont on parlait tout à l'heure. Et c'est lui qui décide. Et parfois, je vois des injustices, j'en ai vu d'ailleurs, ça fait 28 ans que j'enseigne au conservatoire, donc vous imaginez bien que j'ai vu des gens extraordinaires rester sur le côté de la route, et des gens moyens, pas mauvais non plus, mais moyens, tout d'un coup devenir des stars. Je dis, mais pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Mais parce qu'on avait besoin d'eux à tel moment, c'est un hasard historique.
Je pensais à une chose, je cherchais son nom à l'instant. L'autre jour, j'assistais à la Comédie Française dans la présentation de Feydeau, le fil à la patte, j'avais par hasard à côté de moi Podalydès, et on voit arriver Christian Eck, que je n'avais jamais vu jouer. Et la salle avait envie de se lever pour l'applaudir, tellement il était de... Et je demande à Podalydès, je me dis, non, il vient d'où celui-là ? Et Podalydès me dit, c'est Mesguich. Alors, est-ce que vous êtes responsable de cette espèce de personnage de mi-Charlot, mi-Bruce Willis déglingué ? C'est vous qui lui avez appris à...
Non, je pense qu'il était déjà très doué comme ça au départ.
Parce que franchement, là...
Christian est un immense acteur, je n'ai pas arrêté de le dire. Je suis allé un jour en Belgique et...
C'est vous qui l'avez découvert ?
Pour la France,
oui,
en France, oui. Je suis allé un jour en Belgique, mais vous voyez bien, il jouait déjà, puisque je l'ai vu jouer en Belgique. Mm-hmm. Très modestement, il débutait à peine, il sortait de l'école. Je l'ai trouvé absolument génial. Et chose qui ne m'arrive jamais, à l'issue du spectacle, il y avait un petit repas, comme ça, dans un restaurant. Et à l'issue du spectacle, je m'approche de lui, je lui dis, « Voulez-vous jouer dans mon prochain spectacle ?» Je ne savais même pas ce qu'on allait faire. Mais je trouvais ce type génial, et je me suis dit, « Moi, je le veux absolument dans mon prochain spectacle.
Oui, »
Et c'était Boulevard du Boulevard, où il a été sublime. Et je n'ai pas arrêté de le dire, il a joué Sganarelle avec moi dans Don Juan, et il était génial aussi, à tel point que certaines fois, moi je jouais Don Juan à l'époque, certaines fois je m'arrêtais, je me mettais de dos, et je me disais, je vais exploser de rire, je ne vais pas pouvoir continuer. Tellement il me faisait rire moi-même, alors que je le connaissais par cœur, j'en avais fait la mise en scène, mais c'était trop génial. Voilà, donc Christian est surdoué. Il est en caoutchouc d'abord, physiquement, et puis il a d'une intelligence du plateau absolument diabolique, enfin non, c'est un type merveilleux, magnifique. Ce n'est donc pas moi qui lui ai enseigné ça. Mais disons que, premièrement, je l'ai apporté en France, si j'ose dire. Et deuxièmement, je l'ai conforté. Je n'ai pas été le seul, d'ailleurs, d'autres que moi. Rémi De Vos, par exemple, metteur en scène belge, qui l'a beaucoup fait travailler aussi. Mais disons que je l'ai conforté. C'est-à-dire que chaque fois que je le mettais en scène, il avait un franc succès. Et donc, il a dû se dire, on peut y aller, on peut continuer comme ça, on peut aller le plus loin possible comme ça. Mais des acteurs comme ça, il y en a un tous les 50 ans. Oui.
Par exemple, il te fait oublier, enfin, pour ceux de ma génération, de Robert Hirsch avec Charon.
Oui,
c'est ce personnage-là. Hein,
oui, il est plus proche.
Le clerc de notaire. Là.
Il est plus proche de Funès que de Hirsch ou Charon.
Oui,
mais
ça.
Il a du Hirsch et du Charon aussi en lui. Il a du Charlie Chaplin, il a du.
Oui, c'est ça.
Enfin, il a beaucoup
fait,
de choses.
Oui. Alors, il y a toujours ces querelles sur la relation du comédien avec le personnage. Vous, avec votre expérience et votre intuition, est-ce que vous êtes d'accord avec Jouvet quand il disait que c'est idiot pour un comédien de vouloir rentrer dans la peau de son personnage ? Enfin, Jouvet était plus direct que ça. Vous êtes d'accord avec Diderot aussi, l'idée qu'il faut une distance, que le comédien ne doit pas être une éponge, soi-disant, qui s'imprègne. Qui...
C'est trop difficile de vous répondre
oui,
en peu de temps. Il faudrait vraiment parler 3-4 heures.
Je reviendrai, mais une intuition là-dessus.
Pour moi, Jouvet est un immense homme de théâtre, bien entendu, mais c'est aussi l'un des derniers metteurs en scène du passé, l'un des premiers metteurs en scène d'aujourd'hui. Il a un pied dans l'archaïque et un pied dans le moderne, si vous voulez. C'est un étrange personnage que ce Jouvet. Un type merveilleux, évidemment, mais étrange. L'un des premiers structuralistes. Et l'un des derniers essentialistes. Mais là, c'est la partie essentialiste. Il croyait aux personnages. Il pensait qu'il y avait des personnages. Ouais. Comme si ces personnages étaient des personnes. Il ne faut pas confondre, les deux mots ne sont absolument pas synonymes. Pour lui, il y avait des personnages qui préexistaient. C'est-à-dire, quel que soit l'acteur qui prenait en charge le texte, le personnage était là, il fallait lui ressembler, en quelque sorte. Alors, entrer dans sa peau ou tourner autour de lui, peu importe, mais le personnage était déjà là dans la lettre. Moi, je crois qu'aucun personnage n'est dans la lettre. Des personnages sont à inventer, sont à bâtir, sont à créer. Et bien sûr, sans la lettre, il n'y aurait pas ce personnage-là. Mais dans la lettre seule, il n'y a pas le personnage non plus. C'est cet acteur-là qui fera un personnage, qui aura fait un personnage en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préexistence, de je ne sais quelle essence, de je ne sais quelle psychologie, de je ne sais quel caractère, dans la lettre même. Dans le livre, dans les dialogues, il n'y a que du texte.
Donc il y a le miracle de la représentation.
Mais bien sûr, c'est ce qui fait que le théâtre est irremplaçable. Il est irrésumable d'abord. Résumer du théâtre, ce n'est plus du tout faire du théâtre, c'est lui tourner le dos. Mais d'autre part, il fallait qu'il y ait du théâtre, parce que s'il n'y en avait pas eu, eh bien, il n'y avait pas de personnage. Le lecteur peut s'inventer une scène en prenant le livre entre ses mains. Mais ça n'empêche pas que le personnage ne préexiste pas. Voilà. Jouvet croyait qu'il préexistait. C'est pour ça qu'il pouvait dire, lui, encore, en parlant des emplois, toi tu es une soubrette, toi tu es un jeune premier, toi tu es une ganache. Enfin, voilà. Oui. Bah oui, mais non, bien sûr que non.
Alors, à vous écouter, on comprend que vous avez beaucoup réfléchi à ce que représentait votre métier. Donc, je signale un ouvrage dont je n'avais pas encore parlé, en 91, publié au Seuil, L'éternel éphémère. Et puis, il y a ce que sais-je tout à fait étonnant, là, qui paraît...
Pardonnez-moi, il ne se trouve plus au Seuil. Il se trouve maintenant chez Verdier.
Chez Verdier.
Les éditions Verdier.
Excellent éditeur.
Un génial éditeur, bien sûr. Et j'ai eu la chance que Marguerite Derrida, l'épouse de Jacques Derrida, accepte qu'un des textes de Derrida sur ce livre, L'éternel éphémère, accompagne cette édition. Ce qui fait que la postface est de Jacques Derrida.
Alors revenons à vos relations intellectuelles avec Hélène Cixous. Hélène Cixous écrit du théâtre. Le théâtre, c'est mettre des solitudes en commun. Et vous, vous écrivez du théâtre. Le théâtre, c'est le désir de tous les autres. Est-ce que ce n'est pas la même chose, au fond ?
C'est exactement la même chose, en réalité. Vous avez raison. C'est exactement la même chose. Vous savez, c'est le rapport du un au tous, enfin. Le théâtre, c'est qu'est-ce que nous ? Voilà, N-O-U-S. Qu'est-ce que ça veut dire, nous ? Qu'est-ce que c'est, nous ? C'est ça, le théâtre.
Alors, justement, dans votre que sais-je, vous avez cette phrase. Nous allons au théâtre pour nous surprendre, pour ne pas nous attendre à notre lecture, à notre pensée. Est-ce à dire que le théâtre est une voie royale pour s'enrichir des autres, en fait ? De l'autre ?
Bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, regardez un acteur. On dit toujours qu'un acteur se montre lui-même, qu'il peut être narcissique, qu'il peut... Mais le narcissisme, s'il existait, je ne suis pas sûr, sous-entendrait un certain autisme, un certain renfermement sur quelque chose qui serait soi-même. Est-ce que ça existe, soi-même ? Ce n'est pas sûr. Mais Narcisse aime l'autre quand il s'agit de théâtre. C'est-à-dire que sans le concept même d'autre, il ne pourrait pas y avoir de théâtre. L'acteur joue avec le personnage... dont on parlait tout à l'heure, avec des guillemets peut-être, mais quand même, c'est quelqu'un d'autre que lui. Il n'est pas Hermione, il n'est pas Oreste, l'acteur qui entre en scène. Il est Monsieur Machin ou Mademoiselle Truc. Il joue avec l'autre, l'auteur, l'autre, le spectateur, l'autre lui-même, celui qui va avoir un rapport maintenant avec l'auteur, le spectateur ou le personnage, etc. Le partenaire, il y a toujours de l'autre. Il y a toujours de l'autre autour de l'acteur. Un acteur sans autre, ça n'est plus un acteur, ça n'existe pas. Donc le théâtre, oui, c'est l'autre, bien sûr.
Et un autre qu'il faudra apprivoiser, d'une certaine façon. C'est Yvonne Printemps qui disait « Quand je rentre sur scène, je sens les zones de froid dans la salle ». C'est vrai, ça ? Vous sentez ça ?
Oui, ça peut se sentir les zones de chaud aussi, non ? De chaleur oui, aussi. Non,
mais c'est comme ça qu'on perçoit les choses, on se dit. Là, il y a...
Oui, enfin, non. C'est un peu exagéré c'est peut-être, exagéré. Mais pourquoi pas ? Non, elle peut-être qu'elle ressentait ça, et je respecte sa phrase. Moi, quand je suis acteur, assez rarement maintenant, je ne crois pas que je puisse dire que je ressente les zones de froid. Non. Mais je peux dire, effectivement, qu'on ressent quelque chose, que selon que la salle est pleine ou pas pleine, même quand c'est tout noir, on ne sait pas. La qualité de silence, beaucoup de choses sont là qui se manifestent et qui sont en rapport avec nous. Et puis, vous savez, je crois qu'un spectateur n'écoute pas un acteur, ne regarde pas un acteur. Un spectateur se sert, ricoche en quelque sorte, sur l'acteur ou sur la voix de l'acteur, pour entendre une voix en lui, visage en lui, un visage qu'il ne connaissait pas de lui, etc., etc. Et donc, au fond, c'est que des ricochets, c'est comme du billard, c'est comme si on jouait au billard. Ça tape sur la bande, ça revient, ça tape sur la boule, ça fait des effets, enfin voilà. C'est pas aussi clair que ce qu'on croit, il n'y a pas une scène qui serait comme une tribune, ou une estrade de conférencier, et puis une salle qui serait l'audience. Non, je crois que ça se promène, c'est très très compliqué.
Alors vous promenez un peu partout dans l'univers du théâtre, parce que on n'a pas évoqué non plus votre rôle de directeur de troupe fondamental. Est-ce que vous reprendriez à votre compte ce que disait Muriel Mayette il n'y a pas longtemps, c'était en février 2009 ? Nous sommes des clowns responsables, des bouffons graves et nécessaires, des passeurs.
Oui, je crois que je pourrais dire la même chose, oui. Il faut se méfier de...
Clown responsable ?
Clown responsable, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup clown responsable, oui.
Des bouffons graves et nécessaires.
Oui, j'aime beaucoup aussi. J'aime moins passeur.
Oui, parce que passeur, c'est très... on le dit trop souvent.
C'est à la mode. Maintenant, j'en ai marre. Oui, j'en ai marre d'entendre ça. Oui.
Mais est-ce que dans cette notion de vie de troupe, ce bonheur et ces malheurs partagés, vous avez l'impression que être saltimbanque, ça veut dire quelque chose ou pas ? Comme pouvait le dire Molière.
Oui, je crois que ça veut dire quelque chose. Non pas par la fragilité. Enfin, si, la fragilité est une qualité.
On va revenir tout à l'heure à la fragilité, parce que vous avez un texte étonnant là-dessus.
Ah bon ? Non pas donc par la fragilité, ou en tout cas pas que par la fragilité, mais parce qu'il y a quelque chose qui est toujours en marge, en écart, en débord. Voilà, il n'y a pas de centre. C'est un métier pas très sérieux, nous sommes d'accord, enfin.
Et il faut... C'est curieux, parce que vous dites que c'est un métier pas très sérieux, or c'est peut-être là que l'on découvre ce qu'il y a d'essentiel à découvrir de nos vies.
Justement, c'est peut-être que... Enfin, c'est pas moi qui l'invente, mais l'esprit de sérieux, c'est précisément ce qui empêche de lire.
Ce que disait Pagnol, vous savez, méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux.
Voilà. En tout cas, moi je le dis de manière plus à la Merleau-Ponty, si vous voulez, ou à la Sartre même. C'est-à-dire que l'esprit de sérieux, c'est ce qui va donner la mauvaise foi sartrienne, ou je ne sais quel glu qui empêcherait d'avancer et de penser vraiment une espèce de chape de plomb sur Moïc, enfin, qui empêche d'entendre vraiment. Mais pas sérieux, oui, et en même temps, je pense que ce luxe nécessaire, cette façon de se déporter, de ne jamais être au centre, d'être toujours en train de tourner autour du pot, hein, en quelque sorte, c'est l'essentiel. Quand on croit être au centre du pot, c'est là qu'on n'y est pas.
Alors, vous avez mis en scène, par exemple, une pièce de Jacques Attali, Du cristal à la fumée, donc, qui était la reconstitution du Conseil des ministres nazis qui a décidé la Shoah. Est-ce que ça veut dire que, pour vous, le théâtre, c'est aussi, pour vous personnellement, hein, une manière de vous engager, comme vous le faisiez quand vous étiez gaucho à 18 ans, sur les grands sujets de nos sociétés, quoi, et pas simplement notre vie personnelle, intime. Est-ce que...
Moi, je pense que le théâtre est politique, et je pense que l'engagement... Enfin, il ne faut pas tout confondre, l'engagement n'est pas forcément la politique et vice-versa, mais quand même, je crois qu'il n'y a que de l'engagement, qu'il n'y a que de la politique. Simplement, parfois, c'est édulcoré. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons une période européenne. Je ne parle pas de Sarkozy ou de je ne sais qui précisément, mais une période européenne d'écrasement, des valeurs, je ne sais même pas si c'est le mot qu'il faut employer, je pense que c'est même pas le mot qu'il faut employer. Mais bon, d'écrasement de certaines choses, de manque de culture, de cynisme, enfin, etc. etc. Bref, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faille se lamenter à l'infini et penser que ça y est, nous sombrons dans un Moyen-Âge obscur. D'abord, nous savons que le Moyen-Âge n'est pas si obscur que ça.
Oui,
nous
on l'a dit à toutes les générations. Tout le monde.
Oui, voilà, toutes les générations, à un moment ou l'autre, crient « ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde ». Donc je ne dirais pas ça. Pourtant, je peux maintenant, après tout, je ne suis plus si jeune que ça, et je me sens jeune, mais je sais que je ne le suis plus. Et je peux voir donc des différences entre la génération d'aujourd'hui au conservatoire, la génération d'il y a encore 5-6 ans, la génération d'il y a 20 ans, etc. Je les vois, je les ai sous les yeux, si j'ose dire. Et je vois que les choses changent. Mais ça n'empêche pas que je pense qu'il faut le plus possible clamer la politique, clamer l'engagement. Moi, je déplore que les jeunes soient si apolitiques aujourd'hui. Pas un mot sur ce qui se passe dans les pays arabes, par exemple, dans tout le conservatoire. Enfin, je suis le seul à en parler, c'est très étrange quand même, non ? Il y a 100 élèves... Vous voyez, tout ça est très étrange, il y a une surdité. Bon voilà, donc oui, engagement. Maintenant, est-ce que la pièce d'Attali était un véritable engagement ? Vous savez, tout le monde est d'accord, qui est nazi aujourd'hui ? Personne, enfin vous voyez, donc c'est pas être dans un camp que de dénoncer ce nazisme-là. Non, c'était plutôt, et d'ailleurs ce n'était pas du théâtre. Pour moi, ce n'était pas du théâtre. Les croix gammées qu'il y avait dans le décor étaient barrées, par exemple, taguées, comme si on était bien après ça. Donc ça ne pouvait pas être les vraies croix gammées réalistes. J'aurais pas voulu qu'il y ait des croix gammées dans mon décor. Je ne monte pas des spectacles avec des croix gammées dans le décor. De la même manière, les acteurs gardaient le texte à la main. Ils le savaient plus ou moins par cœur, mais ils le gardaient quand même à la main pour montrer qu'on se prêtait, qu'on apprenait par cœur. Par cœur, ça veut dire qu'on aime, c'est avec le cœur. Par cœur du Shakespeare ou du Racine ou du Tchekhov. Pas du Goering ou du Goebbels, enfin, vous voyez, donc on n'apprenait pas ça par cœur, etc., etc. Donc ce n'était pas vraiment du théâtre au sens où on l'entend d'habitude. Mais oui, je trouve que c'est important aussi de faire entendre, de témoigner, parce que ce texte d'Attali, en fait, reprend à 98% le texte réel de cette conférence qu'il y a
c'est
eu.
C'est pour ça que ça fait froid dans le dos, d'ailleurs.
Exactement. Et là, on se dit, mais on dirait des abrutis du Front National ivre-mort ou du PSG, vous savez, ivre-mort.
Attention, j'adore le foot.
Oui, bah, peu importe.
J'étais au parc hier.
Peut-être, mais moi, j'aime pas beaucoup
abruti
le foot.
Abrutis parmi les abrutis.
Mais non, il n'y a pas que des abrutis, visiblement, qui aiment le foot. Mais enfin, vous savez aussi bien que moi qu'au PSG, il y a beaucoup d'abrutis. Et je ne parle pas de l'équipe du PSG, je parle des gens qui donnent qui se battent à coups de barre de fer et à coups de bouteille de bière. Et ceux-là, je me disais, mais c'est pas possible, enfin. C'est un ministre qui parle comme ça, mais ouais, on dirait le type du PSG. Voilà.
Il ne nous reste malheureusement que 3 ou 4 minutes. Deux questions sur des phrases du Que sais-je qui m'ont étonné. Celle-ci, jamais semble-t-il n'y a-t-il eu d'époque aussi folle, aussi contradictoire, c'est-à-dire aussi riche en matière de théâtre que notre époque. Sur quoi vous fondez-vous pour en dire ça ?
Je crois qu'il faut toujours le dire. Je n'en crois pas un mot. Mais je crois qu'il faut toujours le dire.
D'accord.
Attendez, entendons-nous, ce n'est pas du mensonge non plus.
Non.
Mais il faut toujours dire que notre époque est la plus riche de toutes, parce que la plus contradictoire de toutes. Par exemple, tout à l'heure, je viens de vous dire qu'en ce moment, les jeunes sont apolitiques, qu'en ce moment, il y a un écrasement des choses, une déculturation souvent des gens de culture, etc., etc. Donc j'ai l'air de dire que notre époque est beaucoup plus pauvre que d'autres époques. Évidemment que le siècle d'or espagnol, ou que le siècle élisabétain, ou que le siècle des Lumières, enfin non, au théâtre, les Lumières, ce n'était pas très bon, mais le siècle de Louis XIV, enfin voilà, ou même les années 70, toutes proches de nous. Et pourtant, précisément parce que ça va mal, ça va bien. Le théâtre a besoin que ça aille mal. Si on regarde l'histoire du théâtre, c'est toujours parce qu'il commençait à sombrer qu'il s'est réveillé et a été au plus haut.
Comme la Renaissance qui est née de la Grande Peste.
Exactement, exactement. Et je pense en ce moment que le théâtre va mal, c'est-à-dire bien.
Alors, ça donne un sens à la dernière phrase que je voulais citer de votre que sais-je, sur la fragilité. Que vous dites, mais oui, il est fragile, le théâtre. Cette fragilité du théâtre, c'est sa force même, c'est d'elle qu'il tire toutes ses chances de survie.
Voilà, bien sûr.
C'est ça ?
Oui, bien sûr. Imaginez un théâtre fort, mais quelle horreur, vous imaginez ? Tout irait très bien, ce serait officiel, on jouerait ça, ce serait parfait, enfin ce serait une catastrophe. Le théâtre est précisément cette chose qui ne tient pas, cette chose imparfaite, cette chose tordue. Le théâtre est tordu.
Y a-t-il un domaine d'activité hors de l'univers de la scène où vous auriez pu vous épanouir à ce point ?
Je ne crois pas, très franchement je ne crois pas. Il m'arrive de me dire que j'aurais dû écrire.
Vous l'avez fait quand même.
Oui, un petit peu, mais bon, je ne me considère pas comme un écrivain.
Mais écrire roman, des essais ou
oui,
des...
écrire tout court, écrire des romans, des essais, des poèmes, ce que vous voulez, mais écrire.
Mais c'est pas trop tard.
Non, ce n'est pas trop tard, mais vous savez, les activités théâtrales sont très lourdes. Et
ah
je
oui,
m'aperçois...
d'autant que vous cumulez. Vous... Voilà. On n'a pas parlé d'opéra, on n'a pas parlé de... Vous en êtes à 150 mises en scène.
Oui, un peu plus même.
Bon,
et en comptant les reprises, alors
oui,
carrément 250.
Je ne parle pas des rôles au théâtre, au cinéma, à la télévision.
Oui. Non, je pense que je n'arrive pas. Alors je m'arrange pour ne pas avoir le temps de le faire, sans doute, hein, si on veut chercher inconsciemment comment ça se passe. Je ne peux pas évidemment répondre, mais je pense que d'autres pourraient le faire. Mais si j'avais un regret, mais ce n'est pas un vraiment, parce que je suis très heureux de ma vie, hein, rassurez-vous, mais si j'avais un regret, il serait là. Il serait dans le fait que j'aurais aimé écrire. J'aurais aimé écrire plus.
Et pour laisser une trace de
ah
cette
non,
nature-là
non,
ou pas,
non enfin, oui, peut-être, plus ou moins comme tout le monde, mais ça, ce serait banal. Non, non, non. Non, non, pas pour laisser des traces une fois mort. Non, non, une fois mort, je serais mort, malheureusement, pour moi. Mais pour creuser de cette manière-là. Pour rentrer dans la nuit par l'écriture, par le stylo, par la machine à écrire, enfin l'ordinateur, et pas par le corps et l'oral et le regard. Je m'arrange d'ailleurs pour être à la croisée. J'essaie d'avoir un pied dans l'écriture quand même.
Ainsi s'achève cette émission avec, vous l'aurez compris, l'une des grandes figures du monde théâtral français d'aujourd'hui, donc Daniel Mesguich, dont je rappelle qu'il va mettre en scène à l'Espace Cardin les 27 et 28 avril, un texte écrit pour lui par Hélène Sixous, la fiancée aux yeux bandés, un spectacle monté uniquement avec des élèves du conservatoire, donc dans le cadre des travaux de cette prestigieuse institution. Alors, allez-y pour découvrir à la fois la langue énigmatique de Sixous, mais aussi pour découvrir peut-être donc de grands comédiens de demain, et puis l'atmosphère qu'il y a dans ce type de représentation-là. Il se passe quelque chose, quoi, parce qu'on est dans le festif et on est dans ce que... Vous définissiez tout à l'heure Daniel Mesguich comme de l'élitaire, c'est-à-dire on est aspiré au-dessus de nous-mêmes. Ce sont des grands moments, et puis profitez-en, parce qu'en plus c'est gratuit. C'est gratuit, l'entrée est libre sur réservation. Alors, je vous donne un téléphone, 01 53 24 90 16, 01 53 24 90 16, ou sur Internet, à l'adresse du conservatoire, www.cnsad.fr, cnsad.fr, et vous verrez que vous passerez une bonne soirée. Donc deux dates, hein, le 27 et le 28 avril, 20h30, Espace Cardin, donc c'est pas non plus un endroit à négliger. Je rappelle également que Daniel Mesguich publie au PUF avec l'universitaire Alain Viala, que c'est très original dans sa forme et très riche sur le fond, très riche entre autres en interrogations, c'est ce qui fait plaisir, plus en interrogations d'ailleurs qu'en affirmations, que sais-je intitulé tout simplement Le Théâtre. Daniel Mesguich, merci, grand merci, et merci à tous et à toutes d'être avec nous.